Il est 8h39, notre invité ce matin est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Bonjour Alain, vous nous appelez d'Ille-et-Vilaine, bienvenue sur Inter.
Bonjour.
On vous écoute.
Et moi j'avais une question pour Monsieur Martinez. Vous dites que vous ne connaissez pas le fond du dossier des ordonnances et vous appelez déjà à manifester. Ça manque un peu de constructivité.
Merci Alain pour cette question. Philippe Martinez vous répond.
Alors j'ai dit qu'on ne connaissait pas le, on n'avait pas le texte, mais le fond du dossier on le connaît. On a écouté le président, on a écouté le premier ministre. C'est donner plus de liberté aux entreprises, favoriser de la souplesse dans l'emploi. Plus d'accords d'entreprise dérogatoires à la branche et au code du travail. Par exemple, les congés maternité qui sont régis par le code du travail, c'est-à-dire la loi, pourront être négociés à l'entreprise, j'imagine.
Ça, c'est pas encore tranché, ça.
Léa Salamé.
À moins que vous ayez des informations.
Je vous dis ce qu'on a entendu aux réunions. Ce qui nous permettra de trancher, c'est tout à l'heure, quand nous aurons le texte. Donc,
mais opposition de principe, dit Alain.
Non.
Avant même que vous sachiez, que vous voyez ce qui est tranché.
Non, on a la ligne, le fil conducteur de cette réforme. Et je crois que le président l'a confirmé dans son long entretien au point. Comme diraient certains, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que sinon les délais sont courts, hein, le Conseil des ministres est bientôt, donc il y a besoin d'informer.
Mais en même temps, vous saviez que ça se passerait comme ça, ça a été dit, le détail des choses est
c'était
encore à
où
être dévoilé, bah, pendant la campagne électorale,
présidentielle. Il en a parlé très tard dans cette campagne de la réforme.
Oui, mais ça a été dit avant.
Il en a parlé très tard, après il a un programme, il a été élu...
Il en a parlé très tard, M. Martinez, il en a parlé très tard.
Mais dans sa campagne, oui.
Dans sa campagne, il a été très clair, il a dit « ce sera ma priorité, le code du travail, voilà comment je ferai, il y aura une concertation tout l'été, il y aura des ordonnances, et voilà ce que je ferai. »
Il fait ce qu'il dit ou non ? Vous faites quelques raccourcis.
Il y a eu des élections aussi.
Oui, mais on va poser pas trop de questions parce que sinon on va déborder. Il en a parlé dans sa campagne, il a été très clair. Il en avait même parlé l'année dernière quand il était ministre de l'économie, puisque certains disent que il a beaucoup contribué à la rédaction de la loi dite El Khomri. Il y a eu des élections, mais tout le monde est en capacité d'analyser, on n'a peut-être pas tous le même avis, les modalités de l'élection du président. Il est légitime, mais on peut pas dire qu'il a fait un carton.
Il est président de la République, c'est les règles démocratiques, on va pas y revenir.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a un programme et on a le droit de ne pas être d'accord avec son programme.
Moi, je
vois les sondages, on est dans les mêmes proportions que l'année dernière par rapport à la loi El Khomri, déjà.
Pardon d'y revenir, parce que je pense que c'est ce que les auditeurs ont envie de vous entendre sur ça. Ils ont envie de comprendre pourquoi est-ce que Jean-Claude Mailly de FO, qui n'est pas franchement le MEDEF, n'ira pas manifester. Pourquoi Jean-Claude Mailly dit « on a été entendu », pourquoi Jean-Claude Mailly dit « la branche est sauvée », et pourquoi quand on lit l'interview du Point, est-ce que vous reconnaissez tout de même qu'il y a une évolution chez Macron, c'est-à-dire le MEDEF demandait un seuil de 300, il dit non, le seuil des entreprises qui négocieront sans syndicats c'est 50, donc il va dans le sens de ce que demandaient les syndicats, de ce que vous demandiez, et dans un deuxième temps, on lit partout le mot branche, la branche c'est bien, avant il ne parlait que d'entreprises. Est-ce que vous notez cette évolution ou non ?
Philippe Martinez.
Mais c'est toute une question de contenu. La branche, on peut la mettre à toutes les sauces. Est-ce qu'on va négocier plus de choses au niveau de la branche ou moins ? Je vous ai parlé du salaire, la prime d'ancienneté par exemple, ça se négocie au niveau de la branche. Demain, si ça se négocie au niveau de l'entreprise, ça va être un recul. Donc on peut dire que oui, on pourra toujours, de façon optionnelle, en discuter dans la branche. Mais la réalité, c'est qu'on y en discute. Et je peux vous citer, alors, deux choses qu'on a entendues. Voilà, deux choses qu'on a entendues. Donc il y a un vrai...
Pourquoi Mailly, il a été convaincu ?
Il faudra lui demander à lui.
On lui a demandé déjà.
Voilà.
Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, 18e.
Oui.
On vous écoute.
Merci à toute l'équipe pour la qualité des émissions. Je voulais poser une question. Je voulais savoir si ça ne serait pas plus efficace d'avoir des syndicats par secteur d'activité, par branche d'activité, qui connaîtraient sur le bout des doigts l'évolution des activités avec l'évolution des technologies et qui pourraient mieux négocier avec les entreprises concernées, plutôt que des syndicats politisés qui n'ont de cesse que d'être contre le pouvoir en place.
Merci beaucoup pour cette question. Philippe Martinez vous répond.
C'est le cas aujourd'hui. Il y a des syndicats dans les branches. Des syndicats qui négocient en fonction des activités particulières des entreprises qui constituent la branche. Nous, ce qu'on demande même, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une réflexion sur les évolutions technologiques, sur l'activité du donneur d'ordre, c'est-à-dire les grands groupes qui font la pluie et le beau temps pour les petites entreprises, et que les petites entreprises puissent être informées. Donc c'est le cas. Et c'est ça qu'on ne veut pas casser. Il faut qu'il y ait les mêmes règles pour des salariés d'un même secteur d'activité. C'est le rôle des branches, c'est le rôle de la négociation par branche, et la CGT est organisée par branche.
Fred vous pose la question suivante. Monsieur Martinez, craignez-vous de perdre le contrôle des organismes paritaires et l'argent qui va avec, chômage, formation, etc.
Nous n'avons pas le contrôle de ces organismes. C'est une organisation qui se fait à plusieurs, où il y a des discussions. On n'est pas souvent entendu non plus, d'ailleurs. Mais il faut arrêter de lancer cette idée qu'il y aurait des puissances occultes des syndicats sur tel ou tel organisme.
Sur la formation, Emmanuel Macron dit que c'est sombre, c'est pas occulte, ça ce serait complotiste, mais que c'est surtout inefficace.
C'est tout à fait transparent sur la formation, il faut que monsieur le président révise, c'est tout à fait transparent.
C'est tout à fait inefficace, dit-il.
Alors c'est pas efficace parce que il y a beaucoup de formations qui servent à des gens qui ont déjà du travail, parfois les plus formés, qui sont plus adaptés à l'entreprise pour des évolutions de poste par exemple, que à permettre l'accès à l'entreprise à d'autres qui n'en ont pas.
Voilà pourquoi Thomas le président voudrait retirer l'argent de la formation au système paritaire et aux syndicats pour le reprendre, pour que l'État le reprenne, pour pouvoir former des gens qui ne sont pas des insiders, comme dit Emmanuel Macron, des gens qui ne sont pas au travail.
Philippe Martinez.
Mais les gens qui ne sont pas au travail, moi je connais des gens hyper formés, hyper diplômés.
Bien sûr, mais il y a un problème de formation.
Non mais attendez, donc on ne peut pas faire des généralités. Il y a des bac plus 5 qui n'ont pas de boulot, et quand ils en trouvent, on leur dit de prendre un boulot qui n'est pas au niveau de leur qualification. C'est pas dégradant, mais quand on fait des études, on a un savoir-faire et on aime bien travailler à son niveau. Donc, il y a ce problème-là. Il y a les salariés qui n'ont aucune formation tout au long de leur vie. Et ça, c'est pas le problème. C'est bien le problème des entreprises qui touchent de l'argent et qui ne forment.
Vous entendez ce discours sur les insiders et les outsiders, ceux qui ne sont pas dans le système et qui ne sont jamais défendus par les syndicats?
C'est parce qu'ils sont isolés, mais ça n'a rien à voir avec le problème de formation. C'est un peu plus complexe que ça. Je vous dis qu'il y a des gens très formés qui sont au chômage, et vous le savez très bien. Donc il faut faire du cousu main, il faut parler de l'apprentissage. Il faut parler de la reconnaissance des qualifications. Il y a des jeunes qui disent « j'ai fait des études, que je sois payé au moins au niveau des études que... » Voilà. Si on paye mal les salariés, évidemment, on choisit des boulots différents, etc.
Vous êtes plutôt Jupiter ou Schumpeter, Philippe Martinez?
Je crois que vous allez me dire Schumacher.
C'était une alternative.
Je suis ni un dieu, ni un héros.
Mais l'analyse schumpeterienne, dire que nous sommes dans une économie qui détruit avant de créer, est-ce que ça, vous le constatez aussi?
Mais oui, donc c'est ça qu'il faut changer. Donc il ne faut pas continuer les vieilles méthodes.
Il faut mutualiser.
Il faut que ceux qui en ont beaucoup, et je vous ai parlé des dividendes versés aux actionnaires, 40 milliards au deuxième trimestre, rien que pour la France, et bien que cet argent, il vient bien du travail des autres, que ceux qui profitent du travail des autres, et bien le partagent un peu mieux.
Elle n'est pas créatrice, cette destruction.
Ah non.
Elle est destructrice.
Vous avez vu le niveau du chômage en France, en Europe, elle casse aussi, elle augmente la précarité, je vous ai dit, le travail informel, le travail des enfants, etc. Parce que si on prend au niveau de la planète, il y a des drames.
Vous avez entendu Philippe Martinez, Claude Askolovitch, sa revue de presse, je voulais vous faire réagir sur une phrase prononcée par Emmanuel Macron. Quelle est la situation de la France depuis 30 ans? Qui est le grand sacrifié? C'est le jeune, le peu qualifié, l'immigré ou le descendant d'immigrés. Voilà la réalité.
Eh bien, c'est une vision, là aussi, très ancienne. C'est-à-dire que on veut opposer ceux qui ont un peu avec ceux qui n'ont pas du tout. Et vous voyez, quand j'entends le discours, je crois que c'est dans l'interview, qui considère qu'un retraité aisé, c'est quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois. 1200 euros par mois. Enfin,
pour un célibataire.
Oui,
pour un
célibataire. Oui, et 1800, alors si vous voulez être précis, 1800 pour un couple. 1200 euros, on est un privilégié. Et on veut supprimer l'impôt sur la fortune ou la réduire. Enfin, dans quel monde dit-il ?
Mais quand il dit les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes.
Les jeunes,
c'est pas
les
vrai.
Immigrés et les fils d'immigrés.
C'est une question de proportion. Prenons les réalités. On est aisé, on est riche, on est un privilégié quand on touche 1200 euros par mois.
Non, mais vous savez bien que le revenu moyen des retraités est supérieur, largement supérieur.
Moi, je reprends la formule du président.
Philippe Martinez, puis le Standard. Vous reprenez la formule du président.
Oui, ce que vous avez décrit.
Le président
préfère
que ce soit les retraités qui fassent plus d'efforts que les jeunes.
Qui préfère que les retraités fassent plus d'efforts que ceux qui ont touché 40 milliards d'euros de dividendes au deuxième trimestre de l'année.
Gérard est en ligne. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
Nous vous écoutons, Gérard.
Déjà, une première chose, moi je suis entièrement solidaire là, du mouvement de la CGT, de la manif. Pour moi, c'est le seul moyen encore de pouvoir contrer un pouvoir quel qu'il soit. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent, je suis désolé.
Vous avez une question après ce petit édito ?
Je voulais parler justement, ça tombe bien, vous parler un peu des retraités. Moi, je me retrouve dans ce cas-là depuis peu de temps. Les retraités, il y a deux, trois chiffres que je vais vous donner. La dernière hausse des retraités, c'est 2015. C'est 0,1%. Là, on va se prendre 1,7% de CSG en avance de phase, notamment sur la baisse des cotisations sociales à venir, alors que logiquement, ça aurait dû marcher de pair. Et pas plus tard, en plus, ça tombe bien, pas plus tard s'il y aura avant-hier, peu importe, c'est pas grave.
Permettez-moi une question, Gérard, avant de donner la parole à Philippe Martinez. Vous ne vous sentez donc pas privilégié ?
À moi, non.
Et qu'on vous prenne éventuellement de l'argent pour, faciliter les choses pour la jeunesse, ça vous semble un raisonnement, délirant ?
Non, pas du tout. Mais c'est pas le cas, parce qu'à mon avis... je pense qu'ils vont prendre, ils vont baisser les pensions des retraites, mais je suis désolé, faudra me prouver le contraire. Mais ça n'ira pas dans la poche des jeunes.
Ouais. Bien reçu, Gérard. Un mot de réaction de Philippe Martinez.
Oui, c'est un cas concret, comme il en existe beaucoup dans notre pays pour les jeunes. Premièrement, il faut s'occuper des étudiants. Il y en a un certain nombre qui n'ont toujours pas trouvé de place en université. Il faudrait arrêter l'obligation pour un jeune sur deux de travailler pendant ses études. Quand on étudie, il faut se consacrer à plein temps pour les études. Donc, il y a des propositions des syndicats étudiants, l'UNEF par exemple, d'une allocation d'études pour préparer ses études. Et puis, quand ils sont diplômés, quand on leur offre un travail, il faut que le niveau de qualification, c'est-à-dire le salaire, corresponde à leurs études. Et puis, il faut développer l'apprentissage. Les entreprises ont des grandes responsabilités. Beaucoup de centres d'apprentissage ont fermé. Nous, on propose que, pour répondre à la question d'une auditrice tout à l'heure, qu'il y ait des centres d'apprentissage par branche, pour avoir une cohérence de métier, etc. Et puis, évidemment, quand on est apprenti, on a une qualification, on n'est pas les rejetés de la société, et donc, quand on a une qualification...
On a fait un petit point là-dessus hier, avec le PDG de Veolia. Léa.
On a compris que vous n'irez pas manifester avec la France Insoumise le 23 septembre prochain. Hier, Olivier Besancenot a envoyé un petit message à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc ne la joue pas solo. Il a raison, Besancenot, Mélenchon.
Je veux pas me mêler de leurs histoires, j'allais dire. Il y a des débats au niveau politique, on a beaucoup de boulot au niveau social et au niveau syndical. Je vais essayer de m'y consacrer.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait une OPA sur la contestation sociale aujourd'hui et vous a marginalisé ?
Philippe Martinez.
c'est un scoop ce matin, on est marginalisé.
C'est pas un scoop, c'est une question.
Ah bon ?
Oui.
Moi, je vois, même. Pendant mes vacances, par exemple, beaucoup de salariés, de citoyens sont venus voir. Alors, d'où, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont raconté, on veut favoriser les licenciements, les prud'hommes, etc. On a parlé de la loi travail, on est bien présent pas assez présent, notamment dans les petites entreprises, mais on est bien présent. Et donc, on a un agenda sociale, un agenda de mobilisation. On a déjà annoncé que le 12 suffirait pas.
Est-ce que ça serait pas bien pour votre cause que la manifestation du 23, donc de celle de la France insoumise, soit aussi un succès?
C'était une question de Thomas Legrand.
Pourquoi vous renâclez à y aller?
Mais si c'est un succès, tant mieux. Mais,
ah oui, mais ça sera moins un succès si vous n'y allez pas.
Il y a un agenda social. La CGT s'est exprimée depuis longtemps sur la contestation. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de se recentrer autour des mobilisations proposées par les syndicats?
C'est pas clair. Philippe Martinez, honnêtement, maintenant sans langue de bois, vous n'allez pas...
C'est pas mon parce que vous m'avez accusé de ne pas être réveillé tout à l'heure, alors que c'était juste un exemple magnifique de langue de bois.
Sur
la manifestation du 23, vous êtes langue de bois.
Pourquoi vous dites
parce
ça?
Parce que vous êtes contre la loi travail tous les deux et vous n'allez pas manifester avec eux, alors qu'eux, ils viennent manifester avec vous le 12. C'est pas clair.
C'est très clair. Le mouvement France Insoumise à des initiatives. La CGT, elle, a son agenda. On va continuer. Et je l'ai déjà dit, il y aura, avant le 23, je l'espère, en tout cas, nous allons discuter, une autre initiative de la CGT contre la loi travail. On a un agenda et on essaie de rassembler les syndicats.
Il nous reste, s'il vous plaît, Léa.
C'est quand même assez particulier de nous entendre dire aujourd'hui qu'on devrait être plus dépendant d'un parti politique alors qu'on nous a reproché pendant des années d'être complètement inféodé à je ne sais qui ou à je ne sais quoi.
8h54, Augustin Trapenard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La dernière question.
Oui, bonjour Philippe Martinez, je sais que la CGT est historiquement très liée, très attachée aux questions de culture et plus largement d'éducation populaire. C'est le cas par exemple du comité d'entreprise d'EDF, la CCAS, qui est principalement dirigée par la CGT et qui organise son propre festival cinéma Vision Sociale en parallèle
d'ailleurs
du festival de Cannes. Et je vous en félicite, Philippe. Je me demandais si vous aviez la main sur une grande réforme du code du travail, est-ce que la culture y aurait sa place et surtout, de quelle manière,
Philippe?
Vous avez à juste titre insisté sur le rôle des comités d'entreprise. Bien, plutôt que de réduire l'argent attribué à la culture, aux loisirs, aux comités d'entreprise, il faudrait les développer. Et d'ailleurs, nous sommes présents au Festival d'Avignon aussi. Et nous avons lancé une initiative l'année dernière avec Jean-Claude Mailly sur les questions de culture. Étaient présents de nombreux artistes. Et donc, il y a besoin de favoriser. On peut, par exemple, réduire le temps de travail dans notre pays pour que les citoyens, après le boulot, aient du temps pour aller au théâtre, au cinéma, au concert, etc. Par exemple, augmenter les salaires pour favoriser l'accès à la culture. Oui, on a des tas de propositions.
Une question rapide, Philippe Martinez, avant Frédéric Becbédé. La lutte des classes, existe-t-elle toujours, ces gens qui vous posent la question?
Plus que jamais.
Dernière question, celle de Cathy. Pensez-vous que Macron est le Thatcher français? Margaret.
J'ai moins connu Thatcher, c'est pas ma période, mais ça y ressemble beaucoup.
C'est le même programme.
Ça y ressemble beaucoup avec des choses nouvelles parce que on n'est plus à l'époque de Thatcher, mais il y a des évolutions, la mondialisation encore plus présente qu'à l'époque de Thatcher, mais c'est la même logique, oui. La même logique libérale, ultra-libérale, je sais pas comment on appelait ça à l'époque de Thatcher.
On disait qu'il y avait pas d'alternative à l'époque.
Bah, c'est ce que dit Macron, il n'y a pas d'autre choix que ce que je propose. Bah, nous on dit qu'il y a d'autres choix.